Chapitre 7, Lettre de créance divine. Cher frère M. La lettre que vous m'avez adressée m'est parvenue au commencement du sabbat. Je vous conseille de rester à l'école et de ne pas quitter ce pays avant d'être bien au clair concernant ce qui est la vérité. Je désire sincèrement que vous restiez à l'école durant cet exercice pour apprendre tout ce que vous pouvez au sujet de ce message de vérité qui doit aller au monde. Le Seigneur ne vous a pas chargé d'un message suivant lequel les adventistes du septième jour seraient Babylone et le peuple de Dieu serait appelé à en sortir. Toutes les raisons que vous pouvez proposer sur ce sujet n'ont aucune valeur à mes yeux, le Seigneur m'ayant donné des lumières qui d'une manière décisive s'opposent à un message semblable. Je ne mets pas en cause votre sincérité ou votre honnêteté. À différentes occasions, j'ai adressé de longues lettres à des personnes qui accusaient l'Église adventiste du septième jour d'être Babylone et je leur ai dit qu'elles ne parlaient pas selon la vérité. Vous supposez que j'ai été influencé défavorablement par certains individus. Si c'était le cas, je ne serais pas qualifié pour l'œuvre de Dieu. Mais cette question m'a été présentée dans d'autres cas où certains se disaient porteurs d'un message de même nature pour l'Église des adventistes du septième jour. Et il m'a été dit, ne les croyez pas. Ce n'est pas moi qui les ai envoyés, et ils courent néanmoins. Rappel de quelques cas. Le pasteur K, alors qu'il était mourant à l'hôpital de Battle Creek, avait sa chambre remplie de personnes intéressées. Plusieurs ont été trompés. Cet homme paraissait inspiré. Toutefois, d'après la lumière qui me fut donnée, l'œuvre ne venait pas de Dieu et le message ne devait pas être accepté. Quelques années plus tard, un certain N, de Red Bluff, Californie, vint me délivrer un message. C'était, disait-il, le grand cri du troisième ange qui devait éclairer toute la terre de sa gloire. Il pensait que Dieu lui avait confié ce message en laissant de côté tous les frères dirigeants. J'essayais de lui montrer son erreur. Selon lui, les adventistes du septième jour étaient Babylone. Quand nous lui avons exposé nos raisons de le croire en erreur, une grande force s'empara de lui, et il poussa un grand cri. Il nous a créé de grandes difficultés, et il fallut finalement le placer dans un asile d'aliénés, son esprit s'étant dérangé. Un nommé Garmi républia un message dont il s'était fait le défenseur, toujours à propos du grand cri du troisième ange. Il accusait l'Église comme vous le faites maintenant. Il disait que les dirigeants de l'Église tomberaient tous par orgueil et seraient remplacés par des hommes humbles qui accompliraient des merveilles. Les filles de cet homme se vantaient d'avoir des visions. Son erreur me fut montrée. Bien que ce fût un homme intelligent, de bonne réputation, désintéressé, plein de zèle et de ferveur, ayant toute l'apparence d'une vraie consécration, Dieu me fit savoir, ne les croyez pas, je ne les ai pas envoyés. Ils prétendaient croire à la vérité des témoignages et ils les employaient comme vous les avez employés vous-même, et cela afin de justifier ses prétentions. Je lui dis que ce message ne venait pas de Dieu, et qu'il tendait à tromper ceux qui n'étaient pas bien avertis. Il ne se laissa pas convaincre. Je lui dis que les visions de sa fille, Anna, étaient fausses. Il affirmait que ses visions étaient semblables à celles de Sir White et tendaient au même but. Cette fille trompait sa famille et quelques autres qui acceptaient ses faux messages. Il me fut montré que cette jeune fille, loin d'être vertueuse, était corrompue. Si je vis jamais un homme inspiré, celui-ci l'était certainement. Mais je lui dis clairement que son inspiration venait de Satan, non de Dieu. Son message ne portait pas les lettres de créance divine. Afin de diffuser son message dans le monde, il fit croire à un jeune homme consciencieux que son devoir était de soustraire la liste des abonnés de la Review and Herald. Il s'agissait là d'un crime punissable par la prison. Aussi le jeune homme s'enfuit et n'osa revenir à Battle Creek pendant un certain temps. Cet homme fanatique avait fixé une date pour l'expiration du temps de grâce. L'échéance ayant passé sans que s'accomplît la prédiction, le jeune homme se rendit compte qu'il avait été berné. Il confessa sa faute et il a été depuis un membre honorable de l'église de Battle Creek. 2 ans plus tard seulement, un autre homme, du Connecticut, présenta un message qu'il désignait comme une nouvelle lumière concernant le message du troisième ange. Les membres de sa famille, quoique intelligents, avaient été séduits et s'étaient séparés de l'Église adventiste du septième jour. Parce que je m'étais prononcé énergiquement contre cette prétendue nouvelle lumière, à Tireba, Connecticut, où il vivait, il s'opposa à ma personne, à mon œuvre et à mes témoignages. Le Père des Eaux assista à une convention pastorale biblique tenue à Battle Creek. Mais il se tint à l'écart, n'approuvant pas l'esprit qui régnait dans ses réunions. Rentré chez lui, il commença à agiter la petite église de Tireba. Sans mon intervention, il aurait amené toute l'église à répudier la vérité professée par les adventistes du septième jour, et Madame White en particulier. Au même moment, Madame P. vint de Washington D.C., se disant entièrement sanctifiée et douée du don de guérison. Plusieurs furent déconcertés. Un même esprit d'accusation se manifestait, tout allait mal dans l'église et Dieu en ferait sortir un peuple capable d'opérer des miracles. Bon nombre des membres de l'église de Battle Creek étaient rayés des registres. Une nuit, l'Esprit de Dieu me poussa à écrire à nos membres de Battle Creek. Le message aux Laodicéens. Dieu conduit son peuple, qu'il s'est choisi sur la terre, une église à qui il a confié le dépôt de sa loi. Il l'a chargé de communiquer au monde une vérité éternelle. Il le reprend et le châtie. Le message à Laodicée s'applique aux adventistes du septième jour qui ont reçu de grandes lumières et n'en ont pas tenu compte. Ceux qui se sont beaucoup vantés mais n'ont pas marché au pas avec leur conducteur seront vomis de sa bouche à moins qu'ils ne se repentent. Le message qui assimile l'église adventiste du septième jour à Babylone et invite le peuple de Dieu à en sortir ne procède pas d'un messager céleste ni d'un instrument humain quelconque inspiré par l'Esprit de Dieu. Voici ce que dit le témoin fidèle, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Je reprends et je châtie. Jésus apporte ses plus riches bénédictions à tout membre d'Église qui veut lui ouvrir sa porte. Il n'appelle pas son Église Babylone, et il ne demande pas à ses membres d'en sortir. Au contraire, il dit, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime avec des messages de répréhension et d'avertissement. Je n'ignore pas ces répréhensions. Si j'ai donné des avertissements, c'est parce que l'Esprit du Seigneur m'y a contrainte. Si j'ai réprimandé, c'est parce que le Seigneur m'avait confié des paroles de répréhension. Je n'ai pas négligé d'annoncer tout le conseil de Dieu, que le Seigneur m'a confié pour l'Église. Je dirai dans la crainte et l'amour de Dieu, je sais que le Seigneur a des pensées d'amour et de miséricorde pour rétablir et guérir ceux qui ont fait défection. Il a une œuvre à faire par son Église. Elle ne doit pas être assimilée à Babylone. Au contraire, elle doit être le sel de la terre et la lumière du monde. Ses membres doivent être des messagers vivants qui proclament un message vivant en ces derniers jours. La Babylone d'apostrophe. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et s'est plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Il ressort de tout le chapitre que la Babylone qui est tombée ce sont les églises qui n'auront pas reçu les messages des trois anges, ayant préféré le mensonge à la vérité. Elles ont refusé les messages de vérité. Voir. Le message du chapitre 18 de l'Apocalypse est clair et bien défini. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il suffit de lire ce chapitre pour ne pas s'y tromper. Quelle joie exubérante Satan n'éprouverait-il pas s'il pouvait diffuser le message selon lequel le message divin s'applique justement au seul peuple que Dieu a constitué dépositaire de sa loi. Le vin de Babylone consiste à exalter le faux sabbat au-dessus de celui que le Seigneur Jéhovah a béni et sanctifié pour l'usage de l'homme. C'est aussi la doctrine de l'immortalité de l'âme. Ces hérésies apparentées, avec la réjection de la vérité, font de l'Église une Babylone. Roi, gouverneur, marchand, maître de religion forment un groupe corrompu. L'Église ne doit pas être démembrée. Je le répète, le Seigneur n'a pas parlé par le truchement de messagers ayant désigné l'Église qui garde les commandements de Dieu comme faisant partie de Babylone. Il est vrai qu'il y a de l'ivraie mêlée au froment. Mais le Christ a dit qu'il enverra ses anges pour lier l'ivraie en gerbe et la brûler puis amasser le bon grain dans le grenier. Je sais que le Seigneur aime son Église. Elle ne doit pas être désorganisée et fragmentée en morceaux indépendants. Rien n'indique qu'une chose aussi illogique puisse avoir lieu. Ceux qui prêtent l'oreille à ce faux message en s'efforçant d'en agiter d'autres se trompent et se préparent à d'autres séductions. Ils échoueront. Des membres de l'Église ont de l'orgueil, de la propre suffisance, une incrédulité obstinée, avec le refus d'abandonner leurs idées préconçues, malgré toutes les preuves qu'on peut leur produire pour leur montrer à qui s'applique le message à Odyssée. Mais ils ne pourront infliger une flétrissure à l'Église. Laissez l'ivraie croître à côté du froment jusqu'à la moisson. Alors les anges se chargeront du triage. J'avertis l'Église adventiste du septième jour de faire attention à la façon dont elle accueille toute idée nouvelle, et ceux qui prétendent avoir de nouvelles lumières. Apparemment, leur travail consiste à accuser et à démolir. Mon frère, soyez prudent. Ne faites pas un pas de plus dans la voie où vous vous êtes engagé. Marchez dans la lumière pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Vous vous plaignez d'être traité avec froideur à Battle Creek. Vous êtes-vous adressé humblement à des hommes spirituels en leur disant, « Voulez-vous examiner les Écritures avec moi ? Voulons-nous prier sur ce sujet ? Je n'ai pas la lumière, je la cherche, car jamais l'erreur ne pourra sanctifier une âme. Avez-vous lieu de vous étonner s'il ne vous accorde pas toute la confiance que vous croyez mériter, après l'expérience qu'ils ont faite ? Ne convient-il pas de donner tout leur poids aux paroles du Christ ? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. On multipliera les, le Christ est ici, il est là. Que les croyants écoutent la voix de l'ange qui a dit à l'Église, restez unis. L'union sera votre force. Aimez-vous comme des frères, soyez pleins de pitié, soyez courtois. Dieu a une Église, et il a déclaré, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les messagers que le Seigneur envoie sont accompagnés de ses lettres de créance. J'éprouve de la tendresse pour vous, mais je vous en supplie, venez à la lumière. Le résultat d'un travail souterrain. Il importe que chacun sache de quelle atmosphère son âme est entourée, s'il est associé à l'ennemi de toute justice, accomplissant inconsciemment son œuvre, ou bien s'il est étroitement lié au Christ, accomplissant son œuvre, s'efforçant d'établir solidement les âmes dans la vérité. Satan serait heureux si chacun devenait son allié, travaillant à affaiblir la confiance d'un frère dans l'autre, semant la discorde parmi ceux qui font profession de croire à la vérité. Ceux qui servent le mieux les desseins de Satan sont ceux qui, se disant amis du Christ, ne marchent pas et n'agissent pas en harmonie avec le Christ. Ceux dont le cœur et l'esprit se détournent de l'œuvre particulière que le Seigneur a confiée pour ce temps-ci, qui ne coopèrent pas avec lui pour affermir les âmes dans la vérité en les rendant attentives à ses paroles d'avertissement, font l'œuvre de l'ennemi du Christ. C'est une affaire sérieuse que d'aller de maison en maison sous prétexte de faire un travail missionnaire et de semer la méfiance et le soupçon. Chaque grain de semence ne tarde pas à germer, ainsi l'on perd confiance en les serviteurs de Dieu chargés d'apporter le message au monde. Alors que Dieu parle par ses serviteurs, cette semence a produit une racine d'amertume. La parole tombe dans des cœurs qui n'écoutent pas, qui ne répondent pas. Aucune puissance terrestre ou céleste ne trouve accès auprès des âmes. Qui se rendra responsable pour de telles âmes? Qui pourra extirper cette racine d'amertume qui les a empêchées de recevoir la parole du Seigneur? Une sœur ou un frère a acheté la mauvaise semence, mais comment pourra-t-il sauver cette âme en péril? La langue qui aurait pu être employée à la gloire de Dieu pour apporter des paroles d'espérance, de foi et de confiance en les ouvriers de Dieu a détourné une âme de Jésus-Christ. Ceux qui pour leur propre compte ont méprisé les paroles du Christ, refusé de se convertir à sa voix, ont jeté dans d'autres esprits un levain de suspicion et de médisance. Nous sommes arrivés au jour que Dieu a fixé pour notre préparation. Le temps n'est pas au bavardage, aux paroles d'incrédulité, à travailler à l'œuvre du diable. Que chacun se garde bien d'ébranler la foi de quelqu'un en jetant des semences d'envie, de jalousie, de désunion. Car Dieu entend les paroles et juge non par des paroles, des oui ou des non, mais par les fruits résultants de l'œuvre de chacun. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. La nature de la moisson dépendra de la semence jetée. Un message inspiré de Dieu apporte ses preuves. Quand le Seigneur confie un message à un homme, il donne en même temps de quoi s'assurer que le message vient de lui. Dieu ne demande pas aux siens d'accepter n'importe quel message apporté par n'importe qui. Les avertissements envoyés à son peuple par le Seigneur n'ont pas pour but de détruire, mais de corriger les erreurs. Nous vivons en un temps périlleux. D'après les lumières que j'ai reçues, Satan s'efforce de faire croire à quelqu'un qu'il a une œuvre merveilleuse à accomplir. Mais quand Dieu confie un message à quelqu'un, cet homme montrera par sa douceur et son humilité que Dieu opère réellement par son moyen. Dieu vit et règne. Il désire que nous marchions devant lui en humilité. Il ne veut pas que cet individu s'impose à une assemblée. Nous n'allons pas laisser interrompre réunion après réunion par ceux qui affirment avoir un message à délivrer. Celui qui s'avance de force là où il n'est pas désiré n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Il nous faut agir comme des soldats d'une armée. Nous ne devons pas sortir des rangs et travailler pour notre propre compte.